Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Alors, depuis que le gouvernement canadien a annoncé que si on était doublement vacciné, on n'avait pas besoin de faire la quarantaine à l'hôtel, je n'ai qu'une idée en tête, c'est de partir en France. Vous le savez, une partie de ma famille habite là-bas. Alors, dès que Monsieur Martineau va être doublement vacciné, on va prendre des billets d'avion pour aller en France. Il y a juste une chose qui m'inquiète. Est-ce que la France est en train de devenir folle? Est-ce que la politique française, en tout cas, est en train de devenir folle? C'est la question qu'on se pose. Christian Rioux et moi, Christian, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et collaborateur ici à Cube Radio. Christian, bonjour.
Bonjour Sophie, vous savez que moi j'attends aussi la même chose que vous, mais pour faire le voyage en sens inverse.
On va peut-être se croiser, croiser dans le ciel. Vous allez être sur un vol Air Canada vers Montréal, puis moi je vais être sur un vol Air France, puis on va se croiser dans le ciel. Christian, je fais des blagues là-dessus, mais il reste qu'il y a eu quelques événements au cours des derniers jours, des dernières semaines en France qui sont assez inquiétants, et en particulier quand le président de la République se fait gifler, c'est quand même pas ordinaire. Expliquez-nous ce qui s'est passé et les conséquences que ça a eues.
Oui, effectivement, vous avez raison. Il y a plein d'événements qui se produisent en ce moment. On se demande est-ce que c'est le déconfinement, est-ce que c'est le printemps, est-ce que c'est l'approche des vacances. Mais effectivement, le président Emmanuel Macron s'est fait gifler la semaine dernière, mardi dernier. Il était en déplacement dans la Drôme. Il visite les régions en ce moment. Et et spontanément, lui-même a décidé d'aller parler à des gens qui étaient sur le bord de la rue. Donc, vous imaginez bien qu'il n'y avait rien de prévu là-dessus. Et il y a oui. un jeune homme, Damien Tarel, de 28 ans, qui l'a giflé. Spontanément, lui se dit se référer au Gilet jaune et il s'est écrié « Montjoie Saint-Denis ». Oui. Vous savez que Montjoie-Saint-Denis, c'était un cri de guerre, ça, à l'époque du Moyen-Âge, et notamment des Capétiens. Donc, on a un féru d'histoire, semble-t-il, qui n'a pas pu se retenir et a giflé le président. Évidemment, ben, écoutez, toute la France, évidemment, a été heurtée par ça, hein. Gifler un président, c'est pas comme gifler n'importe qui. C'est la France qui est heurtée. Alors,
bien
tout
sûr.
Le monde, évidemment, a condamné ça. Et le jeune homme a quand même été traduit en justice immédiatement, dès le lendemain. Il a eu 18 mois de prison. Heureusement, 14 de sursis. Et donc, il va faire probablement entre 4 mois et 2 mois de prison, là, avec toutes les remises. Mais quand même, il va
faire c'est
la pas
prison, beaucoup, Christian.
De la prison ferme.
Mais moi, comment? Je trouve que ça n'est pas beaucoup parce que c'est quand même une voie de fait. C'est quand même un citoyen ordinaire. Et, je veux dire, dans d'autres pays, ça aurait été bien plus qu'une gifle. Donc, c'est le message que ça envoie, c'est alors qu'on a un président qui veut justement être près des citoyens, ben je veux dire, si on banalise ce geste-là en donnant seulement 4 mois de prison à quelqu'un qui fait des voies de fait, est-ce que c'est pas une invitation à ce que tout le monde aille foutre une baffe au président ou au premier ministre?
C'est effectivement la question qu'on peut se poser. Effectivement, il y a beaucoup de gens ici aussi qui ont trouvé que c'était finalement assez peu que de faire 4 mois de prison pour une chose comme ça. Vous savez, quand Louis XVI avait été attaqué mais au canif, hein, il avait eu reçu un coup de canif, Louis XVI, ben l'assaillant avait été écartelé. Vous savez, 4 chevaux, on attache les bras et on écartèle, ça peut durer des heures. Et c'est
jusqu'à ce que mort s'en suive.
Jusqu'à ce que mort s'en suive, effectivement. Donc, on n'est plus là, évidemment, mais en effet, beaucoup de gens trouvent que 4 mois de prison, c'est pas énorme. Ceci dit, c'est pas un geste planifié, un geste organisé. Il semble qu'il n'ait pas pu se retenir en voyant le président devant lui, et il agit de cette façon. Emmanuel Macron lui-même a un peu minimisé l'événement. Il faut dire qu'il y a beaucoup de gens aussi ici qui disent que Emmanuel Macron a beaucoup fait pour désacraliser la fonction. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de l'Emmanuel Macron du début, le premier discours d'Emmanuel Macron le soir de son élection au Louvre, où là, il apparaît presque comme un monarque républicain, mais immédiatement, dans les mois qui ont suivi, Emmanuel Macron s'est fait photographier avec des jeunes rappeurs qui faisaient un doigt d'honneur sur des photos à l'Élysée. On était à l'Élysée, voyez-vous.
Oui, puis il y avait des danseurs torse nus et tout, là. Oui, tout à fait.
Absolument. Récemment, il a fait McFly et Carlito, non pas pour passer un message politique, parce qu'on peut aller partout pour passer son message politique, mais simplement pour jouer avec deux youtubeurs sur un jeu banal sur Internet. Et donc beaucoup de gens ici trouvent que, dans le fond, on a beaucoup désacralisé. Vous savez que la Ve République, c'est pas tout à fait un régime ordinaire, c'est un régime démocratique, mais un régime, c'est ce qu'on appelle un peu une monarchie démocratique ou une monarchie républicaine, c'est-à-dire qu'on élit vraiment un personnage qui doit représenter la nation. Tous les régimes n'ont pas ce type c'est d'incarnation. Ça. Mais la France, c'est vraiment particulier. Et c'est vrai que attenter comme ça au président, même si c'est simplement par une gifle, c'est quelque chose qui heurte, en tout cas, qui a heurté à peu près tous les Français.
Oui, mais en même temps, quand vous parlez de désacraliser la fonction, on en a eu quand même des exemples dans d'autres pays à d'autres époques. Je me rappelle, par exemple, quand Bill Clinton était allé jouer du saxophone avec cet animateur télé dont j'oublie le nom, plein de gens lui avaient reproché en disant, ben, un président, ça ne fait pas ça, là, tu sais, c'est trop populaire, là, je veux dire, la fonction appelle quand même à avoir une certaine retenue, mais surtout en France, c'est quand même assez. C'était Arsenio Hall. C'était à l'émission d'Arsenio Hall. Bref, mais en France, on n'imagine pas quand même un président se comporter de façon comme ça. Et de toute façon, quand bien même Emmanuel Macron se serait fait photographier avec des youtubeurs, des rappeurs, ça ne justifie pas le fait que. Il s'est fait gifler. Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui vont jusqu'à dire il a couru après en étant trop familier ou trop populaire?
Non, les gens ne vont pas jusqu'à dire ça. Tout le monde a condamné, ça a été unanime dans la classe politique, mais certains ont rajouté le fait que Emmanuel Macron avait été un président qui désacralisait la fonction, et on le remarque d'autant plus qu'il avait annoncé le contraire. Alors, Emmanuel Macron avait dit, vous savez, qu'Emmanuel Macron arrivait après François Hollande. François Hollande s'était défini comme un président normal.
Ouais.
Personne ne savait trop c'était quoi ça, un président normal. Quand on est président, c'est pas tout à fait normal d'être président. Et Macron avait dit, moi, je ne serai pas un président normal.
Très drôle.
Moi, je rétablirai le statut, l'aura qui doit normalement entourer ces fonctions-là. Et il l'a fait pendant quelques mois au début de sa présidence, mais il a rapidement arrêté de le faire. Et c'est lié un peu peut-être, je dirais, au dictat de l'époque. Hein, mais aujourd'hui, à l'époque, on donnait des grandes entrevues, les hommes politiques donnaient des grandes entrevues à Pierre Nadeau sur Radio-Canada.
Oui.
Aujourd'hui, ils vont à Tout le monde en parle. Vous voyez qu'on a changé d'époque quand même.
Oui, c'est ça. Puis bon, il y a eu aussi... Oui, c'est ça. Puis il y a eu même, voyons, le leader du NPD, là... Quand il y a eu la vague orange. Coudon, je ne sais pas, ça doit être lundi matin. Fait, là. Oui. Je cherche mes mots.
Jack Layton,
merci Jean-François.
Jack Layton,
qui, donc, c'est ça. Puis on a reproché ça aussi en disant, ben voyons, les politiciens doivent être confrontés à des gens qui leur posent des questions difficiles par des journalistes d'expérience, par des journalistes politiques, et pas aller à des émissions de variété. Donc, c'est un vaste débat. Mais on disait au début, Christian, qu'on se demandait, enfin, vous demandiez si la politique française était en train de devenir folle. Il y a d'autres exemples aussi.
Oui, mais voilà, c'est ça.
Oui, allez-y.
Il n'y aurait eu que ça. Il n'y aurait eu que ça. On n'aurait pas porté le même jugement. Mais la même semaine, vous savez, Jean-Luc Mélenchon, le président du parti d'extrême-gauche de la France insoumise, a fait des déclarations tout à fait étonnantes en expliquant que, vous savez, plus parce qu'on entre dans une année présidentielle, hein,
élections,
moins d'un an, ça sera les élections présidentielles. Et Jean-Luc Mélenchon, il va d'une insinuation en disant, vous savez, plus on va approcher des élections, plus il va se passer des choses étranges. Il va y avoir des événements qui vont venir tout chambouler. Peut-être qu'à 2 semaines des élections, il va y avoir un attentat islamiste, par exemple, du type Mera, par exemple, en mars 2012. etc., etc. Imagine, et là, évidemment, toute la France s'est dit, mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon est devenu complotiste?
Voilà, Nostradamus. Il faut juste rappeler, c'était quoi les attentats Mera? C'est donc un terroriste islamiste qui s'est pointé devant une école juive à Toulouse et qui a tiré sur des parents et des enfants. Je pense que la plus jeune victime avait 4-5 ans. Une histoire absolument horrible d'antisémitisme flagrant.
Oui, il a tiré sur des militaires aussi. Et d'ailleurs, les parents de militaires qui ont été militaires souvent arabo-musulmans, hein, d'ailleurs, ont réagi en disant mais l'affaire Mera, c'était un complot lié aux élections. Il y a quelqu'un qui a organisé ça pour gagner les élections. C'est fait aberrant de laisser penser ce genre de choses-là.
Mais excusez-moi, Christian, c'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon, puis c'est pas parce qu'il est d'extrême gauche que je dis ça, là, mais particulièrement dans son cas, c'est quand même quelqu'un qui a dit un certain nombre d'inepties ou qui a eu un certain nombre de comportements un petit peu bizarroïdes au cours des dernières années. Là, ce serait pas la première fois
On sent une vraie dérive chez Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, il y a 5 ans, Jean-Luc Mélenchon avait fait un très, très bon résultat au présidentiel, hein. Il était à quelques points derrière Marine Le Pen et derrière François Fillon. Il était quatrième, là, mais ça se jouait dans un mouchoir de poche. Et on se demandait qui serait le chef de l'opposition dans les années qui allaient venir. On se demandait si ça serait Marine Le Pen ou si ça serait Jean-Luc Mélenchon. Et visiblement, c'est pas Jean-Luc Mélenchon.
Non.
tous les sondages le montrent aujourd'hui. Il y a quelque temps, il s'était interposé face à des policiers qui venaient perquisitionner les locaux de son parti politique. Il les avait empêchés de rentrer.
Les images étaient hallucinantes.
De son corps, un bouclier en disant « Je suis la République ».
Oui, c'est vrai! Oui. C'est vrai, vous avez raison!
En hurlant « C'est moi la République ». Alors là aussi, on s'est interrogé un peu sur la santé mentale de Jean-Luc Mélenchon, mais on voit visiblement qu'il y a une dérive, en tout cas, chez ce personnage-là. Une dérive qui est liée probablement au fait aussi que son parti est en plein chamboulement. Vous savez que Jean-Luc Mélenchon était un laïcard fini, c'était un défenseur de la République, et aujourd'hui, son parti défend une politique multiculturaliste.
Un peu comme...
parfois à des islamistes, un peu comme Québec solidaire,
par exemple. Exactement, c'est ce que j'allais dire.
C'est un personnage contraire à ça. Donc voilà. Donc autre fait. Ce week-end, dimanche, en fait hier, Éric Dupond-Moretti, qui est quand même le ministre de la Justice, hein, c'est un grand avocat très connu, Éric Dupond-Moretti, qui a été nommé ministre de la Justice. Eh bien, il était en campagne dans le nord de la France, en Picardie en particulier, dans la Somme, et il s'est engueulé, littéralement engueulé, avec François Ruffin, qui est un candidat justement de la France insoumise, et avec Damien Rioux, qui est un candidat du Rassemblement national. Et il s'est fait traiter de pitbull à roulette.
De pitbull à roulette?
À Rolex.
Excusez-moi. Juste pour les potins quand même, je sais pas si c'est encore le cas, mais jusqu'à tout récemment, en tout cas, Éric Dupond-Moretti, c'était aussi accessoirement le chum d'Isabelle Boulay. Mais on referme la parenthèse parce qu'on n'est pas dans Paris Match, mais il reste que bon. Alors, mais parce que c'est un fort en gueule quand même, Éric Dupond-Moretti, il est ministre de la Justice, mais quand il était avocat, il défendait des causes difficiles, il les gagnait tout le temps. Les gens l'appelaient.
Absolument.
Attends, il y avait un jeu de mots avec Terminator, là, Akitor ou quelque chose qu'il réussissait...
Akitator,
voilà, Akitator, merci.
Oui, voilà, c'est ça.
Parce qu'il réussissait tout le temps à faire acquitter ses clients. Bref, c'est en effet un pitbull, Éric Dupond-Moretti. Mais donc, il y a quelque chose dans l'air en France qui est un petit peu inquiétant. Juste, Christian, parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure, Marine Le Pen, vous l'avez dit, on est en élection, enfin, on est en année d'élection présidentielle. Oui. Est-ce que vous, ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez sérieusement que Marine Le Pen pourrait être la prochaine présidente de la République française?
Ah, ça, c'est la question à 100 000 $ évidemment, là. Mais première chose qu'il faut dire, c'est qu'à un an des élections, quand on remonte à toutes les élections présidentielles, 30 ans en arrière, on peut le favori en général ne l'emporte jamais.
Ah,
celui qui est favori un an avant. Oui. Il ne l'emporte pas.
Donc, c'est trop tôt, voilà, c'est ça.
Celui dont on pense qu'il va arriver deuxième, il ne l'emporte pas.
D'accord.
Ceci dit, il est clair qu'il y a une normalisation du Rassemblement national. Et d'ailleurs, vous voyez, je vous cite plein de déclarations un peu bizarres, un peu ésotériques d'hommes politiques, mais je n'ai pas de situation de ce type-là à rapporter pour concernant Marine Le Pen.
Intéressant.
N'en ai pas. Marine Le Pen fait extrêmement attention à tout ce qu'elle déclare. C'est un candidat qui a en général des interventions extrêmement posées, extrêmement calmes, mesurées. on est pantois quand on se rappelle évidemment ce qu'était le père ce que faisait le père
Jean-Marie.
Les affreuses déclarations antisémites que faisait Jean-Marie Le Pen. Donc, il est certain que le Front National est aujourd'hui le parti d'opposition en France, et il est certain que son score est en train d'augmenter. Il n'y a aucun doute. D'ailleurs, vous voyez, on est à une semaine des élections du premier tour des élections régionales. Il y aura un deuxième tour le 27. Et aux élections régionales, le RN est en tête dans 6 régions. 6 régions sur 13. Quand
c'est pour ça, c'est important.
Il a des grandes, grandes chances. Mm.
Oui,
il
de
a l'emporter. Une chance de remporter, notamment la région Provence-Côte d'Azur, qui serait tout à fait exceptionnelle, parce que vous savez qu'autour du Front national, c'est toujours formé ce qu'on appelle un front républicain, c'est-à-dire que les socialistes, la gauche votait pour la droite votait pour la gauche, et finalement, on empêchait l'élection du Rassemblement national. Et ça, il semblerait, en tout cas, c'est ce que tout annonce, il semblerait que c'est en train de disparaître, et on assiste visiblement à une normalisation du Rassemblement national. Normalisation dans ses déclarations, mais aussi dans son programme, c'est-à-dire que le programme Marine Le Pen semble avoir éliminé les choses les plus radicales de son programme, et les choses qui choquaient le plus les Français.
Voilà. Alors, ce qui va être intéressant d'un point de vue, parce que je suis une femme, et ça va être très intéressant parce qu'il y a beaucoup de féministes qui disent « Ah, c'est important d'avoir plus de femmes en politique, puis les femmes, elles font de la politique différemment. » Et tout d'un coup, il suffit de prononcer le nom Marine Le Pen, et tout d'un coup, il y a un silence radio de la part des féministes. Tout d'un coup, elles trouvent que c'est plus si important que ça, d'élire des femmes. Alors, ça va être très intéressant à suivre d'un point de vue sociologique, en plus, évidemment, de le suivre d'un point de vue politique. Christian, merci beaucoup. Écoutez, c'est la dernière fois qu'on se parle pour cette saison-ci.
Oui.
Juste vous dire à quel point c'est éclairant, intéressant, amusant, passionnant de vous parler tous les lundis depuis plusieurs mois maintenant. Vraiment un plaisir. Et puis, j'espère qu'on aura peut-être le plaisir de prendre un petit verre de rosé à une terrasse à Paris. Mais si vous revenez au Canada avant que moi j'ai le temps de vous voir, ce sera peut-être un petit verre de rosé au Café Chérier ou quelque chose comme ça.
Pourquoi pas Café Charrier, mon Dieu, mais c'était ma cantine, c'est une autre époque.
Ah, bon, voilà, je suis bien tombée. Je dois être Nostradamus comme Jean-Luc Mélenchon.
Absolument.
Merci beaucoup, passez un bel été.
Et au plaisir de se revoir. Vous savez que l'année prochaine sera une année extrêmement mouvementée, extrêmement occupée en France. Ça sera l'année des présidentielles et on n'est pas au premier revirement. Bref.
Non, on n'est pas au bout de nos peines, puis on n'est pas au bout de nos surprises.
Non,
alors Christian, merci beaucoup, toujours intéressant, toujours pertinent. Christian qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et qui collabore ici à Cube Radio à tout plein d'émissions. Merci beaucoup Christian.